Bonjour à tous, nous nous trouvons dans l'écrin tout de rouge de Théâtre de la Contrescarpe dans un moment un petit peu particulier puisque nous assistons aujourd'hui à une séance de travail entre un metteur en scène et sa comédienne, ce qu'on appelle des raccords dans le jargon du métier, sur un nouveau spectacle qui est présenté ici qui s'appelle La vie humaine et qui est un texte de Jean Cocteau. Et donc nous allons demander à Charles Gonzalez et Yannick Rocher de nous dire un petit peu qu'est-ce qui les a amenés à choisir ce texte et à venir le proposer dans sa configuration au Théâtre de la Contrescarpe.
Moi, Yannick est venu me trouver, je ne la connaissais absolument pas. Il m'a dit un jour, j'ai envie de travailler avec vous. Voilà. Donc,
une déclaration d'amour.
Non, bah, non, c'est parce que je crois que tu avais vu Yannick, mon spectacle au Théâtre des Mathurins,
Camille Claudel.
Donc tu as exprimé ce désir-là, et à force de parler un petit peu ensemble, voilà, tu t'es aperçu que j'ai parlé de La Voix humaine, ou toi, que tu l'avais joué, je crois, en année, aux États-Unis, dans les...
dans des théâtres d'université, sur toute la côte Est.
Et comme ton désir était très ardent, non, j'ai dit, ben, faisons-le, parce que moi je l'ai monté à Bruxelles, avec une grande comédienne aussi, Monique Dorcel, qui le reprendra en 2018, et Yannick et moi, nous sommes tombés, comme on dit au Canada, en amitié, hein, voilà, et nous avons décidé de faire ça dans une nouvelle version, et c'est une version que j'ai montée exprès pour, sur mesure, si tu veux, David, pour Yannick.
D'accord. Et Cocteau me semble très présent sur ce texte et dans cette salle. C'est un peu toujours le cas quand on propose un spectacle consacré à Cocteau, mais dans cette version et dans ce spectacle-là en particulier, je trouve que son fantôme est très présent. Me trompe-je ?
Non, tu veux toujours beaucoup, Yannick.
Et ce qui est intéressant, en fait, voilà, quand j'ai rencontré Charles, j'avais joué la voix humaine de façon très classique. L'interlocuteur parle à quelqu'un qui est présent au téléphone. Donc c'est une vision plutôt, la vision romantique, en même temps très bourgeoise, d'une femme qui se fait quitter.
Et conventionnelle.
Et conventionnelle. Tandis que chez Charles, la voix est l'élément important, et ça serait presque un lyrisme tronqué, parce qu'il n'y a personne de l'autre côté. Et je trouve que ça donne encore plus de présence, et on pense plus à Cocteau. Et au tout départ, quand j'avais joué La Voix humaine, j'avais rencontré Dominique Marny, qui m'avait dit, chez les Cocteau, on n'a pas le droit de pleurer. Quand il y a un enterrement, il ne faut montrer aucune émotion. Et le travail avec Charles a été intéressant, parce qu'on a travaillé sur une technique très, très précise, et je trouve que l'émotion est encore plus forte quand on a cette distance proposée. Et quand on... En fait, on n'attend pas les réponses de la personne à qui on parle. Et c'est vraiment une autre vision qui est beaucoup plus forte.
Oui, qui apporte une autre dimension au texte.
Tout à fait. On n'entend plus le texte. Oui.
Je voudrais juste apporter un détail sur ce que tu viens de dire, ma chère Yannick. Ce n'est pas du tout un lyrisme tronqué. Hein. Pas du tout. C'est le gommage absolu de toute psychologie ridicule, théâtreuse, de toutes ces comédiennes qui portent un téléphone, qui pleurnichent parce que elles ont été délaissées par un amant ou par un homme. Donc c'est pas du tout un lyrisme tronqué, c'est une hallucination théâtrale, comme tu as pu le ressentir, quelque chose qui est là, qui est dû à l'absence d'un personnage très important chez Jean Cocteau, qui est Raymond Radiguet, qui perd du typhus, et qui fut
très jeune,
et qui fut un fracas pour Jean Cocteau. Lorsque tu dis, mon cher David, que cette salle pue le Cocteau dans le sens très beau du terme, dans le sens étymologique de senteur, tu as tout à fait raison, c'est la sensation que moi j'ai eue aussi, dans ce côté rouge, rococo, de Belle et la Bête, tu sais, de parisianisme, c'est une pièce très parisienne. Ce qui m'a intrigué, c'est que lorsque tu l'as joué en Amérique, c'était dans une traduction américaine.
Ça a été en alternance, hein. Ça a été traduit.
Mais j'ai du mal à le concevoir, ça, parce que cette pièce est très française, comme Camille Claudel ou comme Colette, tu vois, très française. Il y a des résonances très françaises qui sentent l'opium opium de Paris 1930, où les gens ont la syphilis, le mal de vivre, la pierre d'achoppement.
Et qui il y a un trouble, effectivement.
Il y a un trouble.
Il y a quelque chose à la fois assez éthéré dans le bon sens du terme, mais quelque chose de plus sombre,
c'est ça,
plus
c'est
lourd.
Ça. Donc pour ce lyrisme tronqué, c'est pas du tout ça, c'est le gommage de la psychologie qui aujourd'hui fait partie d'un théâtre que j'aime beaucoup, celui du boulevard, mais qui est un théâtre de cocotte. Dans le sens noble du terme, la cocotte, quoi, qui me paraît aujourd'hui très désuet. Alors qu'aujourd'hui, une femme ou un homme qui est délaissé ou pas délaissé, qui est dans une extrême solitude, eh bien, se perd lui tout seul dans le tortillon d'un téléphone, mais qui est le tortillon de ses angoisses, le tortillon de sa chambre d'hôtel, etc. etc. Donc, j'ai enlevé toute la psychologie, qu'apportait Yannick, très juste, très joli, les pleurnichements, les choses comme ça, avec son accord, parce que sinon on ne l'aurait pas fait, hein. Et parce qu'on s'aime beaucoup, on se respecte beaucoup, et pour rien, travailler sur le rien avec un R majuscule, tu vois, sur le silence, d'ailleurs que tu fais de vraiment très 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 bien.
Qui évoque aussi un peu le nouveau roman, je trouve.
Mais totalement,
oui, c'est tout à fait ça.
Mais oui, ouais. Mais oui. Et aussi, et puis l'oratorio, hein, Ligeti, Boulez, on tient une note du début à la fin.
C'est ça.
Et la psychologie, pour terminer, si vous me permettez tous les deux, elle est dans l'enveloppement sonore et lumineux.
Oui, qui sont très importants. Alors on va y venir justement, c'est une mise en scène assez épurée, dépouillée même, un peu grattée jusqu'à l'os, pour donner toute la place au texte et au-delà même du texte, à cette voix humaine. Vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce qui vous a incité justement à aller dans cette direction ?
C'est l'élégance de Yannick, l'élégance du texte, le mariage des deux. On se dit... Tu es là, Yannick, comme actrice, et autour de toi, je vais te créer un monde. Un monde. Ce monde-là est le monde de la belle et la bête. Le monde de l'angoisse. Le monde de se dire, est-ce que je vais mourir ? Le monde de se dire, je suis seul. Ne coupe pas, alors qu'il n'y a personne au téléphone. Mais aussi la problématique d'une actrice qui vient, je ne veux pas trop déplorer à tes auditeurs, qui vient dans un studio d'enregistrement pour venir enregistrer ce texte en compagnie de Berthe Bovy et de Monique Dorcel, c'est-à-dire trois générations.
Deux comédiennes qui ont incarné elles aussi ce texte.
Oui.
Et ce qui est intéressant justement, c'est que on en a un tout petit peu parlé le soir où j'ai eu le plaisir d'assister au spectacle avec Yannick, une différence assez notoire entre l'interprétation justement de la comédienne qui avait proposé pour la première fois le spectacle en question, et puis l'interprétation que vous en faites, vous, beaucoup plus neutre, beaucoup plus distanciée, presque froide, et d'avoir par moment cette alternance entre les deux interprétations. Il y a comme un dialogue qui s'instaure à travers le temps, c'est assez bluffant, je dois dire. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché et qui en fait quelque chose d'assez contemporain et sans doute plus universel que ce qu'on veut bien croire en imaginant que ça nous... C'est peut-être l'histoire d'une jeune femme un peu midinette qui est tristouille d'avoir perdu son amant. C'est bien autre chose que ça.
Tout à fait.
Il y a une solitude derrière l'écran qui, moi, m'a sauté au visage. On est au milieu des réseaux sociaux et la solitude n'a jamais sans doute été aussi prégnante et étouffante. Et je trouvais que finalement cette situation il faisait quand même assez penser. Il y a une dimension aussi que j'aurais bien aimé aborder avec vous, c'est cette capacité que vous avez, alors c'est tout votre talent qui le permet, de captiver l'audience. Alors on dit toujours ça pour flatter les metteurs en scène, mais j'ai trouvé ça très fort sur cette représentation à laquelle j'ai assisté. Il y a une espèce de suspension, vous disiez une note tenue tout à l'heure, Charles, du début jusqu'à la fin.
Un la mineur.
Le la mineur.
La mineur, qui n'est pas une note...
De Jean-Sébastien Bach.
Voilà. Ça passe beaucoup par le regard, ce que je vous trouve très intense dans le regard que vous portez sur votre public. Alors, quelquefois lointain, quelquefois perdu, quelquefois plutôt captif de certaines personnes dans le public. C'est quelque chose auquel vous avez pensé quand vous avez souhaité monter cette version de la voix humaine?
En fait, quand j'ai travaillé avec Charles, j'étais encore dans ma version bourgeoise, et ça a été un travail vraiment minutieux de broderie où tout était réglé comme ça, de façon très serrée.
C'est très dentelé, en fait, hein, ce travail-là.
Très
dentelé.
Oui.
C'est très précis. Si tu me permets, les regards dont tu parles, cher David, tout est fixé.
Oui.
C'est prédéterminé.
Oui, au millimètre.
Et
oui.
Tous les soirs, avant de jouer, nous avons des séances de travail pour se récapituler cela. Tous les soirs. Mm-hmm. Il est hors question de déroger de cette règle. Oui.
D'accord.
Un tyran, quoi.
Oui.
Un tyran, ça s'appelle un metteur en scène qui sait ce qu'il veut.
Oui, mais.
Qui veut tirer le meilleur de sa comédienne, c'est bien normal. Alors. Il m'est venu une idée un peu saugrenue, puisque effectivement c'est une comédienne qui est plutôt dans un studio d'enregistrement déclamer ce texte. Et puis je me suis dit c'est peut-être autre chose aussi, puisque le second protagoniste n'est pas là. Alors est-ce que le second protagoniste, ça ne pourrait pas être le public lui-même? Est-ce que ça ne pourrait pas être un fantasme dans l'esprit de cette femme? Est-ce que ça ne pourrait pas être même un être disparu? Parce que chez Cocteau, on sait bien que l'onirisme, voire l'ésotérisme, sont jamais très loin. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui était un peu conscient chez vous? C'est venu naturellement dans le travail? C'était une question qui m'intéressait de vous poser.
Mais Charles me disait au début, en fait, c'est toucher l'invisible. Mm-hmm. Donc dans ma tête, c'était plus une conversation... avec quelqu'un d'invisible, c'était plus dans cet esprit-là.
Donc c'est bien un fantôme dont il s'agit, probablement. On ne peut pas le dévoiler?
Aïe, si j'interviens là.
Vous n'êtes pas sûr?
Non, parce que là, on est aux limites de la psychologie, s'adresser à quelqu'un qui n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, s'adresser à sa propre solitude, c'est...
C'était un peu ce que je voulais dire, oui. Pas forcément un dialogue avec, au sens ésotérique du terme, mais un dialogue avec soi-même au travers le souvenir justement de cet être qui a disparu.
Parce que si au théâtre on commence à penser, en jouant par exemple ça, hein, un être cher qui a disparu, et on se fait mal, on rentre dans une psychologie morbide qui n'a rien à voir avec l'art du théâtre.
J'en connais.
Alors que si, tu as tout à fait raison de convoquer l'invisible, son propre invisible, et de se dire je suis seul et je parle à moi, et ce que tu dis David est très intéressant, ça peut être le public aussi, hein. Évidemment
moi je me suis senti happé et interpellé, donc c'est en ça où je me suis dit le protagoniste manquant c'est peut-être moi.
En fait tu es la personne qui est là-bas,
c'est ça.
Et chacun se sent concerné comme ça. Mais il faut faire attention à la psychologie. Oh, c'est l'horreur du théâtre.
C'est un peu à bannir.
Oui.
Mais Freud avait fait une émission fracassante dans l'univers du théâtre, et pas forcément pour le meilleur.
Oui.
On s'en est départi quand même avec le temps. Mais alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment s'est opéré le travail, justement de manière concrète?
De manière concrète, il a fallu ciseler ce texte, qui est un très beau texte, mais qui demande beaucoup d'exigences. Il a fallu effectivement enlever toute psychologie et faire ce travail d'introspection. Et donc ça a été au départ très technique, mais comme dit Charles, la technique amène à autre chose, et ça a été... un travail de rigueur qui m'a vraiment fait beaucoup avancer. Voilà.
Pour se départir aussi des interprétations que vous aviez pu donner précédemment.
Oui, c'était pas des interprétations dégoulinantes de sanglots, mais c'était quand même de la psychologie avant. Et puis je parlais à quelqu'un de
physique,
que j'avais imaginé, j'avais même écrit le texte et là c'est l'opposé, c'est quelque chose de très différent, mais beaucoup plus intéressant pour moi maintenant, vraiment.
Une femme qui parle, qui se parle à elle-même.
Elle se parle à elle-même.
Pour ne plus pouvoir en fait parler à l'autre, quel qu'il soit, et quelles que soient les raisons. C'est formidable. La question idiote de fin d'interview. qu'est-ce qui peut nous donner envie de venir vous voir justement sur un théâtre comme la Contrescarpe, sur un texte de Cocteau qui n'est pas si joué que ça finalement. Il revient un peu à la mode ces dernières années, mais ce n'est pas forcément celui de Cocteau qui est le plus souvent mis en avant dans l'univers du théâtre. Donc donnez-nous un peu envie de venir vous voir.
Vas-y Yannick, après je finirai si tu veux bien.
Moi je dirais, il y a cet amour du texte, il y a ce texte qu'on pourrait imaginer très simple, mais qui a l'envergure d'une tragédie. Et c'est tout ce texte, même des fois cet humour, il y a plein de belles choses dans Cocteau qui sont au départ, qui semblent simples, mais qui sont...
Un peu vertigineuses. Il y a quelque chose d'iphigénie isolée en scène comme ça.
Il y a une lucidité chez Cocteau, il y a tellement de choses à explorer que c'est...
Charles,
de venir voir ce spectacle, c'est d'abord pour écouter effectivement la parole de cet immense Cocteau. La deuxième, pour voir ce ravissant petit théâtre de la Contrescarpe. Et la troisième, pour ne pas céder à la peur de la nuit, à la peur du nightmare, de la jument de la nuit, du cauchemar. De venir entendre cela comme une hallucination bienfaitrice et peut-être que la véritable vie est un songe, comme dit Calderon, et que mettre le doigt sur nos peurs, nos notes étrangères, nos exils, c'est pas si dramatique que ça, et c'est très constructif, et que la vraie violence, elle est place de la Contrescarpe, où là on s'ennuie. Mais par contre, ici, avec cet interprète, Cocteau, cette lumière qui lèche, parce que c'est aussi un travail de peintre, tu l'as bien remarqué, il y a beaucoup en toute modestie, de Caravage, hein, c'est vraiment entre les ombres et le néant et l'azur. Eh bien, cette nuit devient, comme le dit Jean de la Croix, la notte oscura, la nuit obscure, dans laquelle l'âme se voit. Et ça, je trouve ce texte très mystique.
Oui, il a une dimension qui est très intéressante parce que il a une vraie portée universelle, il a une résonance que je trouve très actuelle pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On peut transposer cette solitude chez beaucoup de gens, de jeunes qui se suicident derrière leurs écrans ayant 2 millions d'amis sur Facebook, sur Instagram ou que sais-je. Donc on peut vraiment se poser des questions. Et puis il y a une portée aussi, moi je l'ai ressenti comme ça, presque d'un pont entre différentes disciplines, la science, la religion, la philosophie. Ça interroge beaucoup, ce texte-là. Il va puiser très très loin, au-delà de ce qu'il dit. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Donc j'espère que nous aurons plein d'auditeurs et de lecteurs qui viendront y assister. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et vous l'avez souligné, Charles, dans un magnifique écrin, qui est le théâtre de la Contrescarpe. Pour quelques semaines encore.
Oh, de longues semaines.
De longues semaines.
J'espère.
Jusque fin janvier.
2 janvier.
Super. Merci infiniment de ce temps que vous nous avez consacré.
Merci.
Et puis on va vous regarder un petit peu.
Merci pour vos questions.
Mais c'était un plaisir. On va vous regarder un petit peu travailler si vous le voulez bien.
Avec un grand plaisir.
Merci, à bientôt.
Elles sont belles, tes questions.